Divergence numérique sur Divergence FM, une émission consacrée au logiciel libre. Aujourd'hui, cette émission numéro 5, suite, on ne s'est pas retrouvé au mois de janvier. C'était une émission oubliée pour cause de restructuration de la radio. On est de retour avec évidemment Anthony de l'ECM Diago Kawanga. Salut Anthony.
Bonsoir Gilles.
Avec Albert et Jean-Claude de LinuxFrench.net. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Gilles.
Bonsoir Gilles.
Et puis au sommaire de cette émission Divergence numérique, tout d'abord l'actu suivi d'un peu de musique, après quoi on fera un gros retour sur les solutions Linux auxquelles était présente Divergence numérique en les personnes d'Albert et Jean-Claude. Je crois un salon qui a laissé des marques, que ce soit sur l'essor du libre ou que ce soit sur vos humbles personnes.
Tout à fait. En plus, vous découvrirez lors de cette émission un des membres de Linux Fringe qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui est Julien Delange, qui est en fait un de nos membres parisiens.
Et lors de ces solutions Linux, vous avez rencontré pas mal de personnes, Alain Di Rollo pour Allégétis, mais aussi l'interview en deux parties de Nekeme.org. Org spécialisé dans les jeux libres, ils vous en parleront. Et puis on aura aussi la chronique de Thierry Stoer. De quoi va-t-il donc nous parler aujourd'hui, Albert ?
Aujourd'hui, il va nous parler un peu de Linux dans le monde de l'éducation et de quelques manifestations auxquelles il participe.
Voilà, ce sera aux alentours de 19h35 par téléphone. Et puis on aura aussi un petit extrait d'une future carte blanche à O'Reilly, www.o'reilly.fr, éditeur spécialisé dans la littérature sur l'informatique et l'informatique libre en particulier. On aura un petit extrait de cette interview où il vous expliquera le pourquoi et le comment de leur nouvelle charte graphique. Ça paraît anodin, mais pas vraiment. Puis on parlera aussi bien évidemment de Peercast, d'ores et déjà, certains d'entre vous nous écoutent actuellement via Peercast.
Et en ce moment même,
au format Hoc Vorbis, format libre s'il en est. Néanmoins, vous pouvez toujours nous écouter en reel via le service de broadcast de Com.fm, puisqu'on ne va pas laisser tomber ce format-là pour une question, je pense, d'accès à tous.
Tout à fait.
On va démarrer tout de suite avec une interview de Alain Di Rollo, que tu as rencontré, Albert, lors des solutions Linux. Il était venu, j'imagine, présenter Allégétis.
Oui, Alain a sorti une nouvelle version d'Allégétis, qui est en fait une compilation de logiciels libres pour Linux, Windows et Mac OS X. Il a sorti une nouvelle version, il nous en a un peu parlé, et voilà, on va l'écouter tout de suite.
Tout de suite.
Bonjour Alain, je crois que nos auditeurs se souviennent de toi. Tu étais déjà venu sur Divergence numérique au début de l'année pour nous parler de l'éducation et du libre. Tu es aux solutions Linux, tu es exposant et en plus tu fais des conférences. Mais qu'es-tu venu vraiment faire ici ?
Bonjour Albert, écoute, je suis bien content que tu dises que les auditeurs se rappellent de moi. J'ai un très très bon souvenir de l'émission. Alors ce que je suis venu faire aujourd'hui et demain en fait sur les stands, c'est faire un petit peu de promotion du CD-ROM qui a été coédité par le CRN-CNDP, l'Académie de Versailles et une autre académie, mais bon, je donnerai les rectifications, et surtout la société Apple France, qui donc se sont basés un petit peu sur le travail que j'avais fait, notamment avec la première version d'Allégétis, qui avait eu un écho favorable parce que j'avais eu des auditeurs qui étaient intéressés, notamment monsieur Jean-Pierre Archambault. Et donc au bout d'un an de travail, comme je l'avais annoncé donc dans l'émission sur Divergence FM, le CD-ROM est enfin sorti dans une première version qui contient 3 CD, un CD-ROM pour GNU Linux, un CD-ROM pour Mac OS X et un CD-ROM pour Microsoft. J'ai du mal à le dire, mais c'est pas grave. Et voilà, donc cet après-midi, en fait, je suis aussi, non pas dans une conférence, mais dans une table ronde à laquelle j'interviens. Et nous allons donc parler de mutualisation, de production, de documentation et de logiciels libres en partenariat avec les enseignants, le CRN-CNDP et d'autres associations qui sont intéressées par ces produits-là.
Je crois que tu es aussi le responsable d'un site destiné aux enseignants. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot et nous expliquer aussi, nous dire du moins, comment réagit la communauté enseignante aux livres dans le Languedoc-Roussillon ?
Oui, alors effectivement, j'ai mis en place depuis quelques temps un site qui est destiné, on va dire, à stimuler et à mettre en place l'utilisation des TIS en classe. Alors, ce site s'appelle ENPLUS, E-N-P-P-L-U-S, ce qui veut dire, j'aime bien les acronymes, Espace numérique de publication partagée, libre, utilisant SPIP. Donc, c'est prévu pour les classes, c'est prévu aussi pour les IAI, les instituteurs animateurs en informatique qui éventuellement ne connaîtraient pas SPIP, et qui donc permet facilement à une classe, suite à une inscription en ligne qui permet d'obtenir des codes d'accès au site, permet donc à ces classes de publier facilement des documents réalisés en classe. Alors ce n'est pas absolument pas ce qu'on appelle un site, un portail pour les écoles, pour faire une page d'intro sur leur école, mais c'est uniquement pour proposer et partager des documents réalisés, je précise bien, en classe. Il y a la possibilité aussi de publier des défis et des concours, ce qui est relativement facile de sous-spi parce qu'on peut accrocher, entre parenthèses, un système de forums, donc de réponses, qui sont gérées a priori, c'est-à-dire que les réponses sont stockées pendant un certain temps sur le système, et au bout d'un certain temps donné, on met les réponses en ligne, donc il est facile de participer et de proposer aussi des concours. Ça commence à prendre un petit peu, à faire un petit peu des émules dans le département du Gard, puisqu'il y a quelques IAI qui sont inscrits sur le site. Je les remercie, ils s'intéressent donc à ce système-là, mais c'est aussi présenté en conférence pédagogique. Les conférences pédagogiques, ce sont des réunions à laquelle sont invités à participer les enseignants du premier degré, et la conférence est animée par un IAI, un instituteur animateur en informatique, qui présente donc l'utilisation de l'outil informatique en classe, et j'ai reçu donc un message qui m'a fait très plaisir, puisque un IAI m'a demandé s'il pouvait donc présenter le produit. Bien sûr, je lui ai tout à fait autorisé à le présenter, mais surtout à l'utiliser. Donc j'espère que ça va faire encore un petit peu plus d'émules dans le département. En ce qui concerne le département de l'Hérault, le département voisin et les autres départements, donc l'Aude, la Lozère et les Pyrénées-Orientales, j'ai eu quelques échos, certains très favorables, d'autres tout à fait opposés à cette idée-là. Alors je ne sais pas trop pourquoi il y a une opposition, mais bon, j'espère qu'avec le temps et avec de la discussion et de la communication, ça devrait passer un petit peu mieux. Par contre, il y a une chose qui est intéressante, c'est que l'info a été relayée au Québec, où un chargé du ministère de l'Éducation du Québec a trouvé le site intéressant et a passé l'annonce sur la liste de diffusion des écoles du Québec. Et il y a déjà des participations donc qui viennent de ce pays là-bas. Donc c'est vraiment ouvert aux pays francophones.
Merci et à bientôt.
at home. Don't try this at home.
Le titre, c'est Latino Chino et c'est par Tangential Cold. C'est une musique libre sous la licence Open Audio License qu'on est allé donc pêcher, ainsi que toutes les musiques de cette émission Divergence Numérique pour aujourd'hui. Eh bien, qu'on est allé pêcher chez openmusicregistry.org. Allez-y, c'est bien. Et c'est gratuit. Les solutions Linux, c'était à Paris il y a quelques semaines. Albert et Jean-Claude s'y étaient rendus, corps et âme. Et pour le meilleur du libre, quelles impressions générales sur cette manifestation ? Est-ce que les manifestations autour des logiciels libres ont le vent en poupe ?
Bien, pour ce qui me concerne, c'était la première fois que j'assistais à une manifestation consacrée au libre et qui concerne vraiment les entreprises et leurs clients. Et je dois dire que j'ai été extrêmement surpris, très agréablement surpris, de voir la qualité des prestations de tous les exposants qui étaient... Je dois dire, enfin, j'ai pas compté, j'ai pas le chiffre en tête, mais très nombreux et très occupés aussi sur leur stand à discuter avec soit des clients, soit d'éventuels clients. Donc moi, ça m'a rendu plutôt optimiste, sur le développement des logiciels libres dans l'Hexagone. Par ailleurs, la rencontre aussi, comme d'habitude, avec les associations a été aussi pour moi un enchantement, parce que c'est le moyen de rencontrer des gens dont on entend parler, dont on lit les paroles sur Internet, mais c'est quand même bien de les voir en direct et en chair et en os.
L'occasion de mettre un visage sur un nom ?
Oui, oui, absolument.
Ou sur un pseudo ?
Ou sur un pseudo, quelquefois, oui.
Ah oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le comptage a été fait après par les organisateurs de Solutions Linux et qu'environ 9600 et quelques professionnels ont visité ce salon pendant les 3 jours qu'il a duré, c'est-à-dire les 3, 4 et 5 avril.
Février, pardon.
Oui, février.
Je suis déjà sur notre salon.
Oui, voilà. Et puis, bon, c'est toujours un petit peu aussi une occasion de réjouissance. Alors, pour donner un petit peu un avant-goût de tous les sons que vous avez ramenés et que pourront entendre les gens, je précise d'ores et déjà que vous pourrez le 8 mars à 19h sur le 93.9 et sur divergence-fm.org écouter une carte blanche à O'Reilly. Vu que Albert nous a ramené une interview fleuve de plus de 40 minutes du représentant pour la France de O'Reilly.
Oui, Xavier Cazin, qui est le responsable de O'Reilly France, nous a accordé un interview sur lequel il a répondu à quelques questions qu'on se pose tous, du moins ceux qui faisons de l'informatique, que ce soit dans le libre ou pas d'ailleurs, parce que O'Reilly est une maison d'édition qui fait beaucoup de publications sur les logiciels libres, mais pas seulement. Et Xavier Cazin a eu la gentillesse de nous répondre à toutes les questions que nous avons pu lui poser.
Voilà, une interview assez longue, mais forte et édifiante. Donc, qu'on retrouvera dans le cadre d'une carte blanche le 8 mars. Mais vous avez aussi rencontré plein d'autres personnes.
On a rencontré plein d'autres personnes. On a rencontré des sociétés qui travaillent dans les logiciels libres. Nous avons aussi rencontré une association qui s'appelle Nekeme. Nekeme, c'est une association qui s'occupe du jeu sous Linux, sous système libre. Et qui est l'association de référence, on peut dire, aujourd'hui en France au niveau des jeux et du libre. Et d'ailleurs, il y a une interview qui va passer durant cette émission.
Voilà, qu'on va écouter dans quelques instants. préciser pour ceux qui bitent rien à tout ça et qui se disent mais qu'est-ce qu'ils nous parlent Nekeme truc qu'est-ce que Kezako. En fait c'est une association
qui
réunit en fait des tas de gens qui créent des jeux vidéo donc qui soient quelques compétences que ça soit programmeur, développeur, graphiste, la 3D, le son, la traduction, les scénarios, enfin et donc en fait ils ont décidé de se regrouper et puis en fait ils ont quelques projets de jeux assez importants qu'on pourrait comparer à des jeux du commerce qui font péter la carte graphique, mais il y a aussi des jeux un petit peu plus des projets un petit peu plus un petit peu moins construits on va dire et en fait tout ce petit monde s'organise s'agglomère ils ont aussi créé une base de données où tous les développeurs peuvent trouver des ressources de quelque type que ce soit, enfin ça a l'air d'être ils ont l'air d'être assez actifs et de rencontrer quand même un certain succès parce qu'il y a des gens qui les rejoignent.
Tout à fait, c'est l'association Nekeme, c'est l'association française vraiment du libre pour les jeux. Ils ont beaucoup de projets en développement, que ce soit, ils vont en parler tout à l'heure, mais que ce soit Arkart, Goblin, Hégémonie, Slune ou autre. Et ils en ont encore d'autres qui vont bientôt voir le jour. Ils ont créé aussi des systèmes pour permettre aux gens justement de grâce au travail qu'ils ont déjà effectué, de créer de nouveaux jeux. Donc il y a vraiment un très gros travail. Ils sont reconnus aujourd'hui par vraiment beaucoup de monde. Ils ont gagné d'ailleurs un prix il y a quelques mois. Ils vont nous en parler durant l'interview. Et vraiment, c'est une équipe qui mérite d'être connue. Même d'ailleurs, il y a des portages de certains jeux qui ont été faits sous Windows. Notamment, je pense à Banquise, qui est un jeu en fait où on se tape dessus. Mais il y a un portage sous Windows, il y en a un sous normalement qui je crois qui est prévu sous macOS 10 aussi. Donc vraiment, il y a un travail énorme de la part des développeurs et tout ça avec des logiciels libres.
Alors tu as aussi, je crois, rencontré un des responsables de Edgit.
Tout à fait, ça, mais on en parlera lors d'une prochaine émission. C'est une société qui travaille dans le libre, en fait, qui apporte du support dans les logiciels libres. Mmh. Et
donc une société pour
commerciale,
un petit peu commerciale, en fait, qui dans le fond de commerce, et la personnalisation de solutions informatiques basées sur le libre pour des clients qui moyennant finance, ont à leur disposition des gens ultra compétents, disponibles. En fait, ils font un peu le même métier que certains font sur des solutions propriétaires.
C'est du support.
Mais ils le font dans un esprit un petit peu différent.
C'est du support tout à fait, à part qu'aujourd'hui, quand on parle de support dans les logiciels propriétaires, je crois que c'est un de support que le nom, notamment au niveau de certains systèmes d'exploitation ou logiciels graphiques ou autres dont je ne citerai pas le nom. Mais effectivement, ce genre de société, il y en a quelques-unes comme elle en France, très peu malheureusement, apporte à des sociétés, des administrations, tout ce genre de professionnels, apporte justement un savoir-faire, des connaissances et des solutions clés en main. Et aujourd'hui, surtout avec les logiciels libres, où c'est vrai que beaucoup de sociétés se plaignent, à mon avis à tort, de ne pas avoir en face de professionnels, en fait, ils apportent justement ce côté-là, la sécurité, avec derrière un savoir-faire et des solutions innovantes qui leur sont propres.
Que dire de plus sur Solutions Linux ?
Oh, des tas de choses. En fait, cette émission n'est que le début, on pourrait dire, de ce qu'on va vous préparer pour les prochaines. Parce qu'en fait, on a pu, avec Jean-Claude, rencontrer de nombreuses personnes et sur ce qu'ils font, qui sont en train de faire des projets qui sont soit en gestation, soit finis, mais qui sont vraiment des projets très intéressants, dont aujourd'hui nous n'aurons pas le temps de parler, mais dont nous reparlerons lors des prochaines émissions, que ce soit au mois de mars, avril ou mai.
Il y a vraiment beaucoup de choses.
On peut les évoquer, oui, effectivement, on peut. Je vais laisser Jean-Claude en parler.
Oui, par exemple, moi j'ai rencontré Sophie Gauthier, qui est le responsable du développement francophone, je dis bien francophone, de openoffice.org. Mmh. et que j'aurais dû d'ailleurs interviewer, mais malheureusement elle n'a pas eu le temps. Et donc ce n'est que partie remise, mais il y a d'autres projets, enfin d'autres suggestions qui ont été faites, par exemple de répondre à des interviews par email de façon à ce qu'on puisse le publier sur le site de Linux French par exemple. Mmh. Mais aussi, j'ai rencontré pour le même projet, le patron du projet OpenOffice, mais vu du côté Sun, qui lui aussi m'a fait des propositions de contact plus avancées pour pouvoir discuter. Et donc, à côté de ça, j'ai aussi vu, comme Albert, beaucoup de gens dont on n'a pas fait d'interview, mais avec qui il y a eu une prise de contact sérieuse et qui s'ouvre sur un développement, sur une collaboration de publication ou d'interview. La plus prestigieuse, à mon sens, étant certainement l'IRCAM, qui était représenté.
Institut de recherche.
Institut de recherche musicale appliquée à la musique. Excusez-moi, mais le nom m'échappe. Mais il y a un département logiciel libre à l'IRCAM qui s'est fédéré avec un projet européen qui a donné une distribution qui s'appelle Anula, qui était au départ basée sur une Debian. Ce sont les Italiens qui dirigent ce projet. Le projet arrive à terme là cette année. Mais j'ai eu droit à une magnifique démonstration de tout le travail qui a été fait par l'IRCAM et par bien d'autres, mais l'IRCAM a été fédérateur sur ce sujet-là. Et j'avoue, j'étais très très impressionné. Vraiment impressionné. Donc, je pense aussi que ce contact qui a été pris avec l'IRCAM va déboucher, pour ce qui nous concerne, aussi bien Linux French que pour Divergence Numérique, sur une collaboration et sur une meilleure connaissance des possibilités musicales.
Voilà, ça c'est un bon coup à tous ceux qui critiquent l'IRCAM, qui a eu une réputation un petit peu de gouffre à pognon, style on dépense des milliards pour analyser l'écho acoustique d'un pet de mouche par exemple, ou ce genre de truc. En fait non, c'est des gens quand même très sérieux qui font quand même un boulot très sérieux et qui jettent pas l'argent du contribuable par les fenêtres.
Je n'y expliquerai pas pourquoi, mais je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas le cas.
Non, mais on peut aussi parler du département du Limousin, je crois. C'est Limoges, c'est dans le Limousin, si
oui,
je ne m'abuse. Qui est très très fédérateur de nombreux projets libres. Notamment, ils sont les organisateurs le 9 et 10 avril à Limoges d'un salon qui s'appelle Game Over, qui est un salon sur le jeu, dans lequel d'ailleurs il y aura Nekeme qui sera présent, mais pas seulement. Mais aussi à Limoges, il y a de nombreuses associations qui sont créées et qui sont en train de créer de faire des projets pour apporter des connaissances, du savoir aux collégiens, à ceux qui cherchent aussi un emploi dans le domaine du libre. Et là, on en reparlera aussi lors de futures émissions.
Très bien, je crois qu'on va préciser quand même que pour le salon Game Over, qui se tient donc à Limoges très prochainement, début avril,
hein, 9
le 9 et 10 avril, faut préciser que vous l'avez rencontré, l'organisateur, mais on va dire que pour un problème technique, l'interview, on peut pas vous la diffuser parce qu'on en a qu'une minute trente. Mais ce n'est pas grave, Divergence Numérique sera...
Sort là-bas.
À Game Over, les 8 et 9 avril.
9 et 10.
Les 9 et 10 avril, à Limoges. Moi, je n'y serai pas, car je serai ailleurs. On va écouter donc la première partie de l'interview de Nekeme, réalisée par notre ami
Julien Delange, qui est un des membres de Linux French.
J'ai rencontré l'équipe de Nekeme.net au Salon Solutions Linux. Donc Adrien, Quentin et Mathieu, qui sont tous trois membres fondateurs de Nekeme.net. Quentin est le président de l'association, Adrien est le trésorier et Mathieu est le secrétaire. Tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Racontez-moi un peu la création de Nekeme, comment ça s'est passé?
Donc au départ, Nekeme, c'est parti d'Arkart. Donc Arkart, c'est un jeu de rôle qu'on a commencé à développer vers 2000 ou 1999 plutôt. Donc on était très peu au départ, on est parti à 3 ou 4. Donc il y avait Adrien qui s'est occupé du scénario directement parce que c'est parti d'une nouvelle qu'il avait créée avec le monde d'Arkart. Moi j'ai proposé de faire un jeu et vu que j'ai des compétences en programmation, et donc on est parti comme ça. Et au fur et à mesure on a été rejoint par pas mal de monde. Il y a d'autres projets qui sont un peu joints à nous et on s'est dit qu'on pouvait créer une association, que c'était quelque chose qui manquait. Donc d'une part, l'association avait plusieurs buts, c'était d'une part gérer les copyrights de ce qu'on créait. Et la deuxième chose, c'était de pouvoir ouvrir un compte. Donc c'est vraiment des buts très basiques. matérialiste. Oui, c'était pragmatique comme association au départ. Et après, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire d'autres choses. Voilà, donc c'est ça. Là.
Oui, alors le but, c'était aussi de permettre à de voir plus loin qu'Arkart, puisque quand il n'y avait que Arkart, on avait déjà pensé à avoir une association pour, au cas où Arkart s'arrête, que nous, on existe toujours malgré la disparition d'un projet de jeu. Et en fait, quand d'autres jeux ont commencé à nous rejoindre sans construire une association, là, c'est devenu vraiment un projet... on s'est dit que ça allait pouvoir se faire. Quand on écoute Quentin, on a l'impression qu'on a pensé à tout dès le début, mais ça s'est fait au fur et à mesure. On a commencé à faire l'association, on était deux projets, puis ensuite d'autres sont venus, se sont greffés, on a pensé à tout ce qu'a dit Quentin, c'est-à-dire la gestion des copyrights, etc. Au fur et à mesure, quand tout nous est tombé dessus et que on a découvert le potentiel de l'association, le fait de pouvoir mutualiser les jeux, être présent sur les salons et montrer tous les jeux, même si les programmeurs sont pas là, etc.
Quels sont les projets de Nekeme? Qui s'investit dedans? Quelle approche vous avez par rapport au jeu, au développement du jeu?
On a 5 projets pour l'instant qui sont Nekeme. Il y a le premier, c'est Arkart, c'est donc un jeu de rôle qui sera à la fois solo et multijoueur, mais en réseau local. Il y a Slun, qui est le jeu le plus abouti, qui est programmé en Python, c'est pour ça que ça va vite. Et donc c'est un jeu de course dont le but est de récupérer des médicaments contre le sida. Et il y a les jeux qui sont en développement plus lourds, comme Goblin et Hegemony. Là on va pas trop en parler, on verra plus tard. Et il y a Banquise qui nous a rejoint il y a peu de temps et qui est un clone de Hero, qui est en fait un Worms en temps réel. Et où des pingouins sur la banquise s'éclatent la tronche à coups d'armes toutes plus belles les unes que les autres.
La musique super ambiante qu'on écoute, c'est pas très péchu, mais le titre était fort évocateur. Ça s'appelle Code is Speech. Traduit, le code, c'est de la parole. Ça s'appelle UK USA. C'était composé en juillet 99, figurez-vous. Mais c'est plutôt sympa dans l'esprit. Alors, on a un peu zappé l'actu en début d'émission, car on était dans l'effervescence des solutions Linux et de leurs séquelles, j'allais dire. Non, je rigole. On va revenir sur l'actu, parce que j'imagine que l'actu, elle est un peu brûlante. Quelles nouvelles, par exemple, des brevets?
On n'a pas vraiment de nouvelles des brevets importantes, dans la mesure où c'est toujours, enfin si c'est important, mais c'est toujours en suspens. C'est-à-dire que moi, mais là je vais exprimer quelque chose de personnel, j'ai l'impression que la Commission européenne fait traîner les choses un maximum pour ne pas revenir devant le Parlement avant la nouvelle assemblée parlementaire, de sorte qu'ils espèrent que le vote se passerait différemment si les gouvernements modifient les choses. Quoi. Ouais. Et puis... pour être abonné aux listes aussi de la ffii.org qui, sur le plan européen, suit de très près cette actualité. Je sais qu'en Grande-Bretagne, il se passe des choses qui sont bien embêtantes de ce point de vue. Ne possédant donc pas suffisamment bien l'anglais, je ne me permettrai pas de traduire ce que j'ai pu lire, mais j'avoue que c'est inquiétant. Quoi. Maintenant, je ne sais pas si Albert a d'autres informations à propos des brevets.
À propos des brevets, non, pas vraiment, mais on peut parler aussi de l'UCD dont on a déjà parlé. Je crois que aussi Jean-Claude fait référence à ça, même par rapport au brevet logiciel. L'UCD, c'est donc le droit à la copie privée qui est en train d'être bafoué, qu'il a été un peu partout, qu'il est déjà en Angleterre et en Belgique, et qui devrait malheureusement l'être au mois d'avril en France, mais de ce côté-là, rien n'est encore vraiment joué, donc on est vraiment dans l'expectative la plus totale au niveau aussi de l'UCD. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'impression que quelque chose se passe, mais en fait si, mais on est dans l'attente pour l'instant.
C'est tout l'art des politiques de
noyer les poissons,
de faire noyer les poissons dans l'ignorance de leurs collègues.
Voilà. Et d'ailleurs, on approche d'une période électorale, comme vous le savez tous. Et je pense que pour qui que vous votiez, que ce soit à droite, à gauche, au centre, au milieu, dans les extrêmes, il serait intéressant que chacun de ceux qui nous écoutent, justement, dise à leur élu, à ceux pour lesquels ils votent, quels sont les problèmes qu'ils ont, que ce soit dans l'informatique ou autre. Mais nous, dans ce qui nous concerne, c'est par exemple les brevets logiciels qui vont quand même mettre sur le tapis plus de 10 millions de personnes. C'est aussi l'UCD qui une loi liberticide qui se raccroche aussi à la LEN dont on n'a pas beaucoup parlé sur divergence numérique, mais la LEN c'est la loi sur l'économie numérique, mais qui aussi encore d'une certaine manière nous enlève des droits sur nos courriers qu'on peut échanger sur internet.
Un très mauvais texte.
C'était un très mauvais texte qui en plus fait que si jamais vous ne plaisez pas pour une raison ou une autre à une société X que vous critiquez sur votre site, elle peut faire fermer votre site sans passer par une juridiction. C'est-à-dire que c'est maintenant on va arriver à un droit privé, ce qui est vraiment l'inverse de ce que veut normalement un État libre. On se rapproche un peu d'un système chinois. Et vraiment, quand je dis qu'on se rapproche d'un système chinois, ce n'est pas pour plaisanter ou pour argumenter, c'est vraiment le cas. On va être avec les Chinois les seuls dans le monde à faire ce genre de choses-là.
Donc fais gaffe pour qui tu votes, auditeur divergent Jean-Claude.
Oui, je voudrais rajouter juste à ce que vient de dire Albert, que c'est extrêmement grave tout ce qui se passe. Et tu disais, Gilles, que les politiques quelquefois noyer le poisson. Là, je crois qu'en l'occurrence, il ne s'agit absolument pas de ça. Mais je pense beaucoup plus que pour bon nombre de politiques, bon nombre d'élus, tous ces problèmes leur passent largement au-dessus de la tête et qu'ils n'ont pas les moyens de juger des conséquences des textes qui sont en train de voter. Et c'est ça qui est le plus grave. C'est ça, moi, qui m'inquiète beaucoup. Donc, je partage tout à fait l'avis d'Albert. Bientôt, il y a des élections pour les régionales, c'est pas les législatives, mais néanmoins, ces élections pour les régionales et aussi les élections européennes qui vont suivre et cantonales vont permettre de poser des questions aux candidats et il faut absolument leur poser des questions sur ces questions-là.
Donc, exprimez-vous.
Exprimez-vous. Thierry Stoer est avec nous en ligne pour nous faire une petite chronique. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors oui, petite chronique, je vais essayer d'être moins pessimiste et puis d'essayer d'apporter quelques informations qui seront peut-être des plus réjouissantes, puisque c'est pas tout à fait dans le même domaine, mais enfin c'est vrai que ce qui vient d'être dit est assez vrai, puisque il y a quand même de gros dangers à propos de UCD, il y a de gros dangers à propos de la laine, et il faut que, je pense, chacun en effet se mobilise et puis interpelle les élus pour qui ils votent et qui sont nos représentants, faut pas l'oublier. Alors, moi, je vais me placer dans un tout autre domaine pour vous parler de deux petites choses. La première, c'est à propos de quelque chose qui est souvent très connu dans le monde du logiciel libre, mais il faut savoir que c'est pas forcément réservé qu'aux utilisateurs exclusivement de logiciel libre. Je veux parler d'un logiciel libre qui est un petit bijou technologique, qui est une Rolls-Royce, qui est certainement pas égalé et certainement le meilleur dans ce domaine. Et ce logiciel-là, c'est le logiciel Mozilla. Alors Mozilla, c'est un navigateur, Mozilla, c'est aussi le courrier électronique, Mozilla, c'est aussi pour composer ses pages, c'est aussi pour faire l'IRC. Et si j'en parle, c'est déjà d'une part parce qu'il est absolument remarquable technologiquement, qu'il est de loin devant tous les autres concurrents, qu'ils soient en logiciel libre et surtout en logiciel propriétaire. Et puis surtout parce qu'il y a une petite actualité à propos de Mozilla très très récemment, qui est que depuis la semaine dernière, il y a, au même titre que la fondation Mozilla qui s'est créée aux États-Unis, il y a une association qui s'est montée, et il y a la structure Mozilla Europe qui a été créée il y a une semaine, à la tête de laquelle il y a plusieurs personnalités, dont entre autres un grand bonhomme que je voudrais saluer, et à mon avis qui fait beaucoup de choses et qu'il faut un peu mettre en avant, qui s'appelle Christian Nitto, et qui est un petit peu derrière Mozi Europe, mais qui est aussi derrière tout ce qui est, on va dire, texte, discours, conférence à propos du respect des standards du web, des standards qui sont édictés par le W3C, et avec toute la puissance que ça veut dire derrière, avec tout ce que ça permet. Et donc Mozi Europe est né la semaine dernière, avec de très beaux objectifs, et je leur souhaite une grande réussite, et je pense qu'ils y arriveront, ils ont les outils pour. Et puis alors, donc c'est mozilla-europe.org pour le site, et il y a quand même le complément à ça, qui est le site, je l'ai cité, de Tristian Nito, qui est justement à propos des standards du W3C, de ce que ça permet. Alors il y en a un qui est excellent, qui s'appelle Stand Blog, Stand comme standard blog, puisque c'est un blog, blog.com, c'est http devant /.. Mais je pense qu'on mettra sur le site les quelques URL. Et là-dedans, il y a de petits bijoux de papier d'humeur qui sont toujours tout à fait documentés. Et puis il y a son autre l'autre site auquel il contribue, il n'est pas le seul, et qui est pour justement la diffusion de l'information à propos des standards du W3C. Alors là, que vous soyez peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter, je comprends rien. Alors ça veut dire que vous êtes débutant complet, et c'est très bien, ça peut arriver à tout le monde, je l'ai été, et tout le monde peut l'être à un moment donné. Mais si vous êtes décideur, ou si vous êtes technicien, mais sans trop encore connaître ce que c'est que les standards du web, ce qu'il faut faire, et surtout ce qu'il faut pas faire, au hasard les frames, et pourquoi, il y a un très bon site qui s'appelle Open Web, qui est à l'adresse openwebtoutattaché.eu.org, et il y a énormément de choses, il y a de la documentation, il y a des informations, c'est tout à fait pointu, et c'est aussi avec Tristian Nito derrière, qui entre parenthèses a quand même travaillé chez Netscape pendant de longues années, il sait de quoi il parle. Alors ça c'était le premier point, donc Mozilla. Et alors le deuxième, et je vous rassure, à la régie, ceux qui sont en train de regarder sur leur montre, je ne vais pas trop durer longtemps. C'est à propos d'un rendez-vous qui arrive prochainement, qui s'appelle les journées du logiciel libre de l'éducation. Alors ça pourra être mis dans la rubrique agenda. Donc les JLLE, alors c'est quoi ? Très concrètement, c'est vous êtes dans une école, dans un collège, dans un lycée, dans une fac, et puis vous n'êtes pas dans ce que je viens de dire, mais dans une mairie, ou alors tout simplement vous dites, tiens, je pourrais organiser une manifestation pour montrer plutôt au public éducation ou plutôt dans une structure de l'éducation nationale. Ça peut être dans sa mairie, à destination des enseignants de sa commune. Une manifestation qui consiste à dire, à montrer, à expliquer ce que c'est que le logiciel libre pour justement répondre aux besoins de l'éducation. Alors, grosso modo, les besoins, ils sont pas forcément, pour certains, très différents, hein. C'est le traitement de texte, c'est le tableur, c'est la navigation, c'est le courrier électronique. Bon, ça, il y a justement des outils remarquables, Mozilla au hasard que j'ai cité, puisqu'ils fonctionnent même sur les autres plateformes que les plateformes logiciels libres, macOS X et puis Windows au hasard, donc ça existe aussi pour ces plateformes-là, et ça marche très bien. Et donc, pendant la semaine du 17 au 24 mars, donc dans pas longtemps, pendant toute une semaine, l'idée c'est que si vous avez envie de monter une manifestation très locale, il n'y a pas d'idée de grosse manifestation internationale, intergalactique, mais très localement, de faire une démonstration sous la forme d'une demi-journée, d'une journée, voire plus, à propos des logiciels libres de l'éducation. Alors, c'est donc du 17 au 24 mars, et il y a un site pour ça, qui essaye de recenser les manifestations, de donner des informations. Le site s'appelle librosoftware-educ.org. Donc en fait c'est http://. Donc il n'y a pas de www devant, il n'y en a pas. Et donc libre comme libre, software pour faire du anglais, français, français, anglais, librosoftware-educ.org. Et là il y a toutes les informations à propos de l'édition 2004. C'est pas la première, puisqu'il y en a eu plusieurs précédemment. C'est la quatrième pour être précis. Ça sera certainement pas la dernière. Il y a de nombreuses associations qui apportent leur soutien, leur caution. Il y a plein de manifestations. Plus il y en aura, mieux ce sera. Évidemment, si vous avez envie, c'est encore possible. Et c'est du 17 au 24. Et je crois que j'ai assez radoté. Je pense que j'ai passé largement le quota de temps prévu. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir, à bientôt.
Merci Thierry, à bientôt.
Voilà, j'espère que vous avez bien pris note. On déborde malgré tout un petit peu de l'heure parce qu'on est particulièrement lent ce soir, il faut bien le dire. Non, je rigole. On va poursuivre avec Nekeme la suite de cette petite interview, je crois.
Ah oui, tout à fait. Et toujours.
Que vous ayez un commentaire à rajouter sur Mozilla ou sur.
Non, entièrement d'accord avec Thierry, que ce soit sur Mozilla, sur OpenOffice ou sur d'autres logiciels.
Non, juste le fait aussi qu'il m'a donné l'idée par rapport aux journées sur l'éducation. Peut-être à l'ECM, je vais essayer d'organiser un truc. Ça va être chaud au niveau timing, mais ça m'a donné une idée comme on est pas mal en rapport avec les professeurs de la région.
Fantastique, Divergence numérique est vraiment un bouillonnement d'idées en gestation. Donc Nekeme, qui rappelons-le, est
une association qui s'occupe de jeux et qui en crée, qui regroupe aussi des tas de créateurs.
Qui mutualise.
Qui mutualise
les ressources de développeurs, de graphistes, de musiciens. Et je pense que c'est vraiment le cœur de leur activité.
Et de scénaristes.
En ce qui concerne l'investissement de chacun, on a réussi à réunir des programmeurs évidemment, quelques-uns plutôt au niveau du programme pur en C++, d'autres sur les petits trucs comme le script. Et sinon on a réussi à trouver des musiciens, graphistes, des gens motivés pour nous aider à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est bon, on est content. Pour ce qui est du temps passé par chacun sur le projet, c'est difficilement quantifiable, c'est même impossible, et pour être honnête, ça dépend des jours, des phases, quand on a des objectifs, si on en a pas, c'est vrai que c'est plus difficile. Il y avait eu pour le concours du ministère l'année dernière, lors de la fête de l'Internet, Mathieu avait passé deux nuits blanches à scripter une quête en Lua. Et bon, donc là c'est vrai qu'on a avancé, mais c'est vrai que d'habitude sinon c'est pas toujours facile.
Ouais, donc en fait sur l'investissement des personnes, le truc a... Enfin, dans les Kémé, c'est extrêmement variable, il peut y avoir des pauses énormes de quelques mois dans des projets où il y a quelqu'un qui peut décider du jour au lendemain que tiens, il va faire ça, donc voilà, on prévoit pas grand chose sur le... On n'est pas très, très organisé sur la plupart des jeux en fait. C'est plutôt les jeux comme Goblin ou Hégémonie où il n'y a pas eu grand chose qui ont au tout départ ont été super bien organisés et tout. Sur Arkart et Slune, c'est plus on fait un peu ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, ou ce qu'on a envie de faire, on fait des pauses. Banquise, ils viennent de recommencer tout. Et donc ils sont plutôt bien organisés, je trouve, mais je fais pas partie de Banquise, donc...
Enfin, l'idée grosso modo, c'est que nous on fait ça pour se faire plaisir, enfin avant tout quoi, c'était vraiment pour se faire plaisir, donc on va pas se forcer à travailler en se disant il faut que ça avance, parce que si on fait comme ça, finalement ça, le travail devient pénible et puis on avance pas, on tourne en rond, on fait rien. Donc il y a vraiment des moments où on peut être extrêmement motivé. Il y a des périodes où je travaille 4 heures par jour sur Arc, sans exagérer, 3-4 semaines de suite. Et puis après, pendant 2 mois, je ne fais plus rien parce que c'est pas le moment, quoi. Et vraiment, ça dépend des jours, quoi. C'est vraiment... Ça dépend du plaisir qu'on a à faire quelque chose. Par exemple, dès qu'un projet de jeu devient pénible parce qu'on a des problèmes, on peut se concentrer sur le travail de l'association, la mise en place des sites, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, ce qui fait qu'on s'ennuie à peu près jamais.
Parlez-moi des projets que vous avez, notamment Arkart, Slune, Goblin. On a eu déjà une interview sur Banquise. Quel est l'état d'avancement du projet? Comment ça avance? Est-ce que vous avez une date de sortie des jeux, malgré que vous avancez un peu au jour le jour? Comment ça va se passer pour tous ces projets?
Alors, pour Arkart, c'est donc un jeu de rôle qui se déroule sur un monde qui n'est pas la Terre, dans lequel cohabitent, c'est classique, deux races, les humains et de la Fearings. Et le but est de faire un jeu bon, qui aura un côté solo et un côté multijoueur, comme je dis tout à l'heure. Alors pour le solo, on va essayer de faire un... Enfin, on essaye de faire un scénario avec des rebondissements qu'on diffusera probablement en épisode pour pouvoir sortir, non pas un jeu complet tout de suite, enfin dans 10 ans, mais des petites parties, enfin le plus vite possible, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et, le scénario devrait être le moins possible manichéen, enfin il n'y aura pas de grands méchants, de bons gentils et aux yeux bleus. Voilà. Le monde, bon, on essaye de le faire le plus riche possible, le plus complexe, avec bon, des secrets, des choses à découvrir. Pour le jeu multijoueur, là, il y aura donc en réseau local ou par internet, on va essayer de se rapprocher du jeu de rôle papier avec les joueurs, les PNJ et surtout un maître du jeu qui aura le pouvoir de régler les parties, de prendre le contrôle des PNJ, de éventuellement régler la difficulté en cas de problème ou d'arbitrer des parties entre différentes équipes. Voilà, ça c'est les projets qu'on a. Pour conclure, on va dire ça tous ensemble.
Nekemé, c'est bon, mangez-en!
Voilà, la musique que nous écoutions là, c'était Robert Hamm qui nous jouait Capitalism. Et effectivement, toujours un petit peu de l'électronica, de la techno, mais il y a plein d'autres choses sur le site openmusicregistry.org. Il y a même des choses parlées, et dans les choses parlées, eh bien, on voit une petite publicité qui est faite par le Stuart Withmore qui a créé qui a créé donc le site. On va s'écouter cette petite bande annonce que je vais vous doubler pour le plaisir, parce que c'est en même temps c'est très américain. Salut, mon nom est Stuart Whitmore et je suis le fondateur de l'Open Music Registry. Si vous voulez écouter plus de musique libre, pointez votre navigateur sur www.openmusicregistry.org. Que vous créez ou pas un compte, je vous encourage à être activement impliqué dans la création, la jouissance et la promotion de divertissement non commercial. Les principales compagnies de divertissement sont incontrôlables aux États-Unis et utilisent votre argent pour booster leur pouvoir de lobbying dans le but d'imposer des restrictions sur le public, ce qui défie l'esprit et la lettre de la Constitution. Vous pouvez vous battre contre ces attaques corporatistes à votre liberté en encourageant activement vos amis et vos familles à chercher des alternatives libres et, le plus important, en refusant de nourrir la machine financière des corporations. Arrêtez-vous sur l'Open Music Registry, trouvez-y du divertissement libre et gardez votre argent dans votre poche. Voilà, c'était un peu rapide, c'est très américain. Il faut savoir qu'en américain, free, ça veut dire libre, mais ça veut dire aussi dire gratuit. Alors, il y a un jeu de mots qu'on n'a pas dans le français. Moi, j'ai volontairement traduit par libre. Mais c'est vrai que en remplaçant libre par gratuit, ça pourrait avoir aussi un petit peu une autre connotation. En tout cas, on peut lui dire bravo à Stuart Whitmore, parce que sur ce site, on trouve quand même beaucoup de musique. Et on trouve aussi, évidemment, la Open Audio License qui accompagne toutes ces petites musiquettes que nous avons pu écouter dans cette émission. Voilà.
Ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est que sur ce site, on trouve tous les styles de musique, que ce soit du funk, du hip-hop, du reggae, enfin, on trouve vraiment de tout. Donc, voilà. Visitez-le.
Visitez-le. On va à présent parler brièvement de O'Reilly, qui, je vous le rappelle, aura une carte blanche, cet éditeur, le 8 mars à 19h sur Divergence FM. O'Reilly, tu vas peut-être nous présenter ce petit extrait qu'on va écouter.
Oui, c'est un petit extrait qui fait partie de l'interview fleuve que j'ai fait de Xavier Cazin, qui est le responsable en France de cette société. Il va nous parler en fait de quelque chose qui intrigue beaucoup de lecteurs de cette maison d'édition, qui est vraiment une maison d'édition informatique les plus reconnues en France et dans le monde. Et en fait, il va nous parler de la charte graphique. Alors, ça peut paraître un peu hallucinant à certains, mais derrière chaque couverture d'O'Reilly, il y a une petite histoire. Et c'est ça qu'il va nous raconter dès maintenant.
Pourquoi choisir de manière systématique pour la première de couverture de vos ouvrages, on en a un peu parlé tout à l'heure, des animaux ou alors des personnages tout droit sortis de la fin du 19e siècle?
Alors, le fait que ça vienne du 19e siècle, c'est simplement parce que c'est libre de droit. L'idée, c'est que à un moment, Aurélie, je ne sais plus exactement quand c'était, ça devait être dans les années 86-87, avait, comme tout le monde, des couvertures très pénibles avait des couvertures à base de 0 et de 1, d'ordinateurs à moitié fondus, des choses comme ça qui amusaient beaucoup et qui faisaient très sérieux. Et à un moment, je pense que c'est Tim O'Reilly qui a dit « on en a marre de ça, c'est vraiment moche comme tout, c'est pas possible, on va faire un appel d'offres et on va demander à des gens de composer, de nous proposer des nouvelles couvertures pour des livres d'informatique ». Et il y a eu 3 ou 4 personnes qui se sont proposées, et dont une qui, ne connaissant rien à l'informatique, mais rien du tout, a travaillé sur 2 sujets qui étaient Sed et Hawk, un bouquin sur les éditeurs Sed et Hawk, et l'autre Lex et Yak. Et ça lui a tout de suite fait penser à des petits animaux, parce qu'elle ne voyait vraiment pas à quoi ça pouvait correspondre, mais elle a eu l'idée des animaux comme ça, en disant bon, tiens, on va, puisque ça a l'air d'être ça, les commandes uniques, c'est des commandes avec des noms très courts. Allons-y pour des petits animaux sympathiques et mignons, VI, des choses comme ça. Et elle a montré donc des essais comme ça. Donc elle est allée chercher des gravures. Alors parce que déjà elle se rendait compte qu'il fallait pas mettre de photos, parce qu'il fallait que les gens ressentent que le bouquin avait été fait à la main, quoi. C'est-à-dire que une gravure d'animal, on sent bien qu'il y a un homme derrière. Une photo d'animal, c'est tellement, concret que finalement, ça le rend un peu froid. Ou alors il faut que la photo soit retouchée d'une certaine manière, mais en même temps, si elle est trop retouchée, on voit trop le travail du designer. Bref, c'était quelqu'un d'un petit peu exceptionnel. Il s'est avéré après coup que c'était quelqu'un d'assez exceptionnel. Tout au début, les gens ont vu toutes ces propositions. Et d'une manière générale, il y a eu, notamment dans le département marketing, des grands cris en disant « mais on n'est pas des rigolos, on vend des bouquins sérieux, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et ils ont vécu pendant 15 jours avec ces couvertures et les autres propositions dans leur bureau. Et au bout de 15 jours, ils ont voté. Et en fait, ils avaient envie de travailler dans cet environnement-là, plutôt que dans un environnement de machin avec des couleurs fluo et des 0 et des 1 partout. Ce qui a posé un casse-tête énorme au départ au service marketing, qui s'est dit mais on va se faire foutre de notre gueule. Bon. Et en fait, au bout d'un mois, ils ont dit surtout on revient pas en arrière, les animaux ça marche du tonnerre, parce que en fait nos bouquins étaient déjà tellement sérieux que c'était pas la peine d'en rajouter. C'est des bouquins de travail. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait pas un petit clin d'œil, pas trop appuyé non plus, juste suffisant pour dire voilà, on vous montre d'une manière que finalement tout ça, il faut pas le prendre trop au sérieux. C'est notre petite touche supplémentaire. Libre à vous de voir quel est le rapport entre l'animal et le contenu. Il y en a toujours un, parfois extrêmement tiré par les cheveux, parfois évident. Mais il y en a toujours un. Et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est secret, parce que quand on demande à cette femme qui est toujours qui est directrice de l'image de marque, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais elle a vraiment une influence très importante sur tout ce qui sort de chez Aurélie, parce que elle s'adresse à la cohérence, disons, de l'image d'Aurélie. C'est elle qui a créé le logo, le nouveau logo avec l'apostrophe là, d'une autre couleur. Ça a l'air de rien, mais en fait, on ne voit pas qu'il y a eu un travail derrière. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on ne se dit pas qu'il y a eu un boulot de graphiste énorme. En même temps, elle est capable de justifier sur 3 pages le pourquoi d'une couverture. Et ça c'est agréable, et les gens inconsciemment, je pense, le sentent aussi, qu'il y a quelque chose de différent. Et même le fait que ce soit systématique, ça n'a pas l'air d'ennuyer les gens. On pourrait se dire, bon, ils pourraient arrêter avec leurs animaux. Non, ça a l'air de continuer, parce que en fait, c'est pas juste systématique. On sent bien qu'il y a des gens derrière. Et on en revient un peu au côté humain de la chose. Je pense que vraiment, ça nous influence un petit peu. C'est de dire, bon, on n'est pas là pour mettre des couches les unes sur les autres. Il faut que ça soit cohérent. Il faut que, disons, l'être humain, qu'il soit programmeur ou pas, soit un peu au centre du truc, ou alors celui qui a fait ou l'auteur du livre soit un peu au centre, et ça parle en général. Donc voilà un petit peu l'idée et l'anecdote véritable, c'est comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, ça doit être raconté mieux que ce que je viens de faire sur certains sites, la genèse de ces animaux. Mais en tout cas, c'est les gens qui ont fait ça sont des gens d'une aussi, alors c'est un des plaisirs d'ailleurs de travailler chez Aurélie, c'est ça, c'est qu'il y a des gens d'une compétence vraiment rare partout. C'est-à-dire qu'on a des collègues pratiquement dans tous les domaines qu'on peut admirer pour ce qu'ils savent faire, quoi. Bon, et c'est réciproque, parce qu'eux non plus ne savent pas faire ce qu'on fait. Et du coup, on fait des choses. La seule chose qui nous relie, c'est qu'on a. On a envie de bien faire, quoi. Et voilà. Et donc aussi bien quand on choisit ou quand on dispose un animal que quand on relit un texte ou quand on travaille avec un auteur pour changer le contenu d'un livre. Donc voilà.
Voilà, c'était donc Xavier Cazin de Aurélie qui, au petit passage, je crois qu'il a fait un petit peu d'auto-satisfait sur sa boîte où tous les salariés sont super bons et ont tous quelque chose à envier à leurs collègues. En tout cas, c'est plutôt sympa. On retrouvera donc l'intégralité.
Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'Aurélie en France, c'est une petite structure seulement de 12 personnes qui font beaucoup de traductions, et que derrière, il y a des auteurs qui sont extérieurs à Aurélie et qui ont vraiment cet esprit qu'on retrouve aussi, malgré tout, dans ce que vient de dire, en fait. fait, Xavier Cazet.
Donc voilà, Aurélie n'est pas non plus un trust qui écrase la planète de sa masse financière.
Il y a un esprit libre derrière quand même.
Voilà, c'est le 8 mars donc à 19h qu'on retrouvera l'intégralité de cet entretien avec Aurélie, plus précisément. Et puis ben maintenant on va parler de Peercast, comme on le disait en début d'émission. Aujourd'hui on peut, grâce aux efforts conjugués d'Albert et Anthony, écouter Divergence au format Ogg Vorbis en 48 kilobits par seconde ou kilo par seconde, je m'y perds toujours un petit peu. Alors Anthony, on est ravis de cette réussite. On peut d'ailleurs voir ta photo en ultime phase de réglage sur le site de divergence-fm.org.
Ouais, merci pour la photo d'ailleurs.
Ah bah c'était avec plaisir, en tout cas ça n'a pas été sans peine, mais on y est arrivé.
Bon, en gros on a mis 6-7 heures à installer le serveur, je trouve que c'est raisonnable. En comptant les périodes d'essai, surtout dans les conditions dans lesquelles on l'a fait.
Voilà, Peercast, suite à la perte de quelques heures, suite à la perte d'un mot de passe, par exemple.
Dont on ne citera pas le nom du fautif, d'ailleurs.
Non, surtout pas.
Et quelques bières. Non, mais Peercast, c'est bien déjà parce qu'on peut écouter Divergence FM à travers le monde. Ça, c'est déjà un bon point, mais c'est pas seulement ça. Peercast, c'est l'occasion pour toutes les petites radios d'avoir une visibilité sur le net à très, très faible coût. Parce que Peercast, en fait, ça demande une solution. C'est une solution libre qui demande juste une faible bande, enfin, disons une ligne ADSL à haut débit ou câble à haut débit pour émettre partout dans le monde. Le système, en fait, il est tout bête. Chaque personne qui écoute l'émission émet à son tour un flux audio, c'est-à-dire que avec une seule connexion, on peut émettre à des milliers d'auditeurs. En théorie, bien sûr.
Voilà, en théorie, c'est l'utilisation de la technologie de peer-to-peer qui est bien connue par les utilisateurs de logiciels d'échange de fichiers, par exemple, qui est mis là au service d'une application audio. Alors, il faut savoir que depuis un peu plus de presque 2 ans, Divergence émet au format Real Audio grâce au serveur de comfm.com que nous payons néanmoins en tant qu'association. Le Congrès national des radios associatives a négocié un tarif préférentiel pour les radios associatives qui sont pas riches, il faut bien le dire. À titre indicatif, il y a 5 ou 6 ans de ça, les prestataires là sur la région de Montpellier qui nous proposaient une solution pour émettre sur internet, c'était quand même du 7500 francs par mois. C'est descendu quelques années plus tard, en fait toujours avec les gens de ComFM, mais en fait tvradio.com qui en fait sont TDF, enfin bon, tout ça, c'était 3500 francs par mois, donc quand même toujours des trucs qu'on pouvait pas se payer. Et là, pour un petit peu plus de 100 € aujourd'hui, on peut avec ComFM émettre en Real Audio. La qualité est pas non plus super, c'est du 20 kilos, mais techniquement ça marche comment? Nous on envoie un seul stream chez eux et eux se chargent, moyennant finance donc, de remultiplier par le nombre de gens qui s'y connectent ce stream. Donc il faut quand même le payer, ce service là, et c'est pas tout le monde qui pourrait se le permettre avec une connexion au débit classique.
Oui, exactement. Alors qu'avec le système Peercast, tous les clients deviennent à leur tour émetteurs. Et je pense qu'il faut inviter les radios associatives qui nous écoutent d'ailleurs à contacter les clubs d'informatique, de logiciels libres, les GUL de leur région pour demander le même service. C'est pas négligeable le taux d'auditeurs qu'on peut avoir sur Internet.
Absolument. Alors sur Montpellier, il y a l'Écho des Garrigues qui s'y est mis. Je crois même avant nous, à Peercast, avec peut-être une maîtrise technique moindre, je sais pas. En tout cas, ils ont un peu plus de mal à se faire entendre, en tout cas via ce format-là. Mais souhaitons-leur que ça augmente, qu'ils aient de plus en plus de serveurs aussi pour relayer leur station que nous aimons écouter. Et puis alors peut-être définir un petit peu à Divergence comment ça s'est goupillé, quel logiciel sont en œuvre en fait pour assurer tout ça.
Alors là, merci, parce que justement, il faut citer les logiciels libres qu'on utilise, il faut en faire la publicité. En fait, c'est une solution de trois logiciels, précisément deux, enfin bon, disons qu'il y a Peercast qui permet de faire lui proprement le relais, et derrière, il y a Ice et Icecast qui permettent d'encoder, en fait, de transformer le flux en données numériques. Donc, c'est
au format Ogg Vorbis.
En format Ogg Vorbis. D'ailleurs, vous pouvez aller sur www.libre-radio.org qui renverra aussi un lien sur linuxfrench.net pour toute l'information complémentaire.
Alors, il faut préciser que une mini distribution qui réunit en fait ces outils-là pour transformer votre radio en web radio entre guillemets, enfin émettre sur internet, sera prochainement disponible.
Elle sera effectivement très prochainement disponible. On espère d'ailleurs la rendre disponible sur un magazine qui vous diffuse d'ailleurs en général cette émission ou un de ses magazines confrères, c'est-à-dire en fait soit Linux Magazine France, soit Linux Pratique, qui diffuseront cette mini distribution qu'on a faite en prenant Ice, Icecast et Peercast qui sont packagés à l'intérieur, on va dire, avec un minimum aussi de sécurité derrière. Il n'y aura après plus que pour la radio ou la personne, parce que ce n'est pas seulement pour des radios. Si vous décidez d'émettre aussi vos propres émissions, tout en respectant quand même le droit d'auteur, vos émissions sur Internet, c'est tout à fait possible. Et donc, vous pourrez récupérer cette distribution, configurer votre matériel très simplement, tout sera expliqué, tout est vraiment très simple. C'est une distribution qui soit pourra tenir sur votre disque dur, soit elle va être mise sur une clé USB de 128 mégas.
Mais en tout cas, même si vous êtes vraiment amateur, n'ayez pas peur d'aller vers les gens, d'aller demander de l'information dans les groupes d'utilisateurs de Linux, parce qu'il ne faut pas être buté par la technique, ça peut paraître un peu dur au début, mais il y aura toujours des gens pour vous expliquer le fonctionnement, surtout que c'est de plus en plus simple.
Voilà, des gens super sympas qui connaissent bien le truc et qui vont dire mais c'est facile, tiens je vais le faire, comme Anthony et Albert se sont décarcassés pour que ça soit le cas à Divergence. On va se quitter très bientôt, deux mots sur l'agenda.
Alors oui, l'agenda, les prochaines manifestations qui vont avoir lieu sont à partir du 30 mars au 1er avril à Paris, c'est le salon du CETI, c'est la semaine européenne des technologies et de l'information qui parle de logiciels propriétaires mais aussi de logiciels libres. C'est une manifestation qui est très intéressante parce qu'on découvre vraiment de nouveaux produits, de nouvelles solutions, donc à suivre. À Limoges, après quelques jours plus tard, le 9 et 10 avril, vous retrouverez le salon Game Over dont nous avons parlé, auquel nous serons présents tout comme au CETI d'ailleurs, à laquelle participera aussi l'équipe de Nekemé. Après le 12 et le 14 mai, autour du Libre, en Bretagne, à Ernst. Alors, c'est un nom un peu bizarre, mais bon, c'est en Bretagne. C'est une manifestation qui a lieu donc sur 4 jours, qui regroupe un peu tous les sujets ayant un rapport au libre, que ce soit logiciel ou autre, c'est-à-dire ça peut être la musique, le graphisme, etc., etc. Et le 26 et 27 mai, à Archamps, alors ça c'est en Haute-Savoie, a lieu un salon destiné plus principalement au monde de l'éducation. Il s'appelle Linux Edu. Là, c'est plus destiné au monde de l'éducation, mais c'est aussi destiné aux administrations et que ce soit département, région ou mairie, pour leur montrer qu'il y a des solutions libres qui existent et qu'elles peuvent aussi être liées à l'éducation qui intéresse bien sûr région et département et mairie. Et pour finir, du 6 au 10 juillet de cette année auront lieu à Bordeaux, manifestation auxquelles Divergence sera aussi présente, les rencontres mondiales du logiciel libre. Et là, nous y serons présents en force.
Voilà, on y sera tous. On va se gratuler corrélogiellement pour se remercier d'être là tous ce soir. Merci Albert, merci Jean-Claude, merci Anthony. On remercie aussi les auditeurs de Divergence, les lecteurs de Linux Magazine France qui nous écoutent peut-être avec un sérieux différé, soit, mais qui nous écoutent quand même avec plaisir.
Sur Peercast.
Voilà, on vous rappelle que pour les Montpelliérains, rendez-vous au LAS jeudi.
D'ici quelques minutes.
D'ici quelques minutes. Et puis, je crois qu'on aura fait le tour de cette émission.
Oui, on peut dire au mois prochain, où on parlera encore de solutions Linux, de nouvelles histoires qui ont trait au libre, à la laine, à l'EUCD et encore et toujours au mauvais logiciel. Donc, pensez à voter et à dire à vos élus ce que vous en pensez de tout ça.
Voilà, je rappelle, on a pu entendre Robert Hamm dans cette émission, on a pu entendre aussi Stuart Whitmore, mais ça c'était un petit peu anecdotique. On a pu entendre Tangential Cold ainsi que UK USA, tout groupe que vous retrouverez sur www.openmusicregistry.org. On remercie Caroline Novara pour avoir assuré la réalisation technique de cette émission et on vous retrouve dans un mois. Salut à tous.
Bonsoir.
Merci Divergence.
Au revoir.
Ne quittez pas l'écoute.
Divergence.